ce matin parce que j'aimerais parler avec vous d'un sujet terrible, Haïti. Le drame qu'a vécu et que vit encore Haïti nous touche, nous émeut et nous dérange. Notre Seigneur nous encourage à nous laisser émouvoir et nous avons pleuré avec ceux qui pleurent. Nous avons pu donner aussi pour aider les secours. Nous avons prié pour les populations qui sont là-bas, particulièrement pour nos frères et nos sœurs. Mais nous avons été aussi interpellés, dérangés dans nos certitudes devant l'ampleur du drame qui touche cette île, déjà frappé par la pauvreté extrême dont Joël nous avait parlé il y a quelque temps, et la corruption. Et tout le monde cherche des pourquoi. Et les chrétiens sont parfois interpellés sur le mode un peu narquois par les gens qui nous entourent. Mais si ton Dieu existe, comment de tels drames peuvent se produire ? Et pour nous-mêmes, dans notre réflexion, est-ce qu'il ne nous est pas arrivé de nous demander comment, si la création est bonne, si Dieu est bon, s'il est tout-puissant, comment de telles choses sont possibles ? Nous venons de chanter « Les mains qui tenaient la terre se livrent au coup de la colère, au clou de la colère. » Est-ce que les mains qui tiennent la terre de notre Seigneur, et je crois que c'est une parole tout à fait biblique que de dire que le Seigneur soutient la création, on trouve ça dans le tout début de l'Épître aux Hébreux, et on peut se dire, mais Seigneur, est-ce que tes mains tremblent parfois quand tu tiens la terre ? Car si de tels malheurs existent, on peut se dire, c'est que soit Dieu se désintéresse du sort de sa créature, donc il ne l'aime pas vraiment, soit qu'il ne peut pas empêcher ces événements-là, c'est-à-dire qu'il n'est pas tout-puissant, ou encore que la création qu'il a faite n'était pas parfaite. Pourtant, à toutes ces interrogations, à toutes ces pensées, la Bible répond non. Dieu ne se désintéresse pas des hommes, il les aime. Oui, Dieu est vraiment tout-puissant. Oui, la création de Dieu était parfaite. Et on peut voir dans les médias, et je vous ai apporté par exemple ici, voilà, un numéro de l'Express, pas cette semaine, la semaine d'avant. Si vous regardez ici, vous avez un dessin de Plantu, où vous voyez une église qui est en ruine, et une dame qui se pose la question « Maintenant, où va-t-on prier ?» Et un monsieur derrière, qui peut être un petit peu plus désemparé encore, qui dit « Oui, mais prier quoi ? Prier qui ?» Si je vous demande pourquoi Dieu a permis que la terre tremble en Haïti en faisant autant de victimes, est-ce que vous avez une réponse à cette question ? Si vous en avez une, je suis preneur. Non ?
C'est pas la réponse définitive, mais moi je suis encouragé par la foi des Haïtiens. C'est-à-dire que je les vois persévérer, je les vois s'attendre encore à Dieu, le remercier parce qu'ils sont vivants, parce qu'ils ont encore quelque chose. Et moi, ça me fait relativiser mes petits problèmes qui sont fait poser les mêmes questions que toi. C'est quelle foi est-ce que moi.
Voilà un élément de réponse.
Je pense que le verset dans Romains qui dit « Nous savons bien en effet jusqu'à présent la création tout entière est unie dans un profond gémissement, dans les douleurs d'un enfantement. Elle n'est pas seule à gémir, car nous aussi qui avons reçu l'esprit comme un avant-goût de la gloire, nous gémissons au fond de notre cœur, en attendant d'être en mort. Mais la terre entière
Cathy a un petit peu devancé ce que j'allais vous dire, mais c'est intéressant. Alors certains ont donné des réponses, les immeubles étaient mal construits, il y a la tectonique des plaques qui fait que... Bon, ça c'est des réponses mécaniques, on va dire. Hein. D'autres avancent des explications qui peuvent paraître chrétiennes. Et j'ai trouvé dans Christianisme aujourd'hui l'explication du pasteur haïtien Michel Morisset qui dit, je vous le livre, « Haïti a été dédié à Satan ». En 1791, au cours d'une cérémonie vaudou qui a précédé la déclaration d'indépendance. Pour lui, c'est l'explication du tremblement de terre. Est-ce que cette explication vous convient ? Non, pas du tout ? Non, ça ne vous convient pas. Ben moi non plus. Hein. Je suis très très réticent pour cette explication et je vous cite trois versets qui nous dit par exemple 1 Corinthiens 10, verset 26, « La terre est au Seigneur, elle n'est pas à Satan, quoi qu'en disent les hommes. La terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme. » Un autre passage où Jésus dit, pardon, c'est dans Matthieu 28, Jésus leur parle ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, tout pouvoir. Rien ne lui échappe. » Et puis encore Jésus qui dit, qui parle et qui dit, Jean 12, verset 31, « Maintenant a lieu le jugement de ce monde, maintenant le prince de ce monde, Satan, sera jeté dehors. » Ces trois versets nous montrent que si Satan a un pouvoir, et je ne voudrais pas le nier, il n'échappe pas à la volonté de Dieu qui est le maître absolu sur terre. Il n'échappe pas à la seigneurie de Jésus qui a reçu tout pouvoir. Les hommes peuvent déclarer ce qu'ils veulent, c'est le Seigneur qui est souverain. Puisque les hommes ne nous donnent pas de bonnes explications, je vous invite à faire ce que tes disciples ont fait, c'est-à-dire à aller poser la question à Jésus. Et si vous voulez lire avec moi, dans Luc 13, versets 1 à 5, ils lui ont pas parlé vraiment d'Haïti, mais ils lui ont posé un problème qui est un problème parallèle. Luc 13, versets 1 à 5. En ces temps-là, quelques personnes vinrent raconter à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit, « Pensez-vous que ces Galiléens aient été de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte ?»« Non, vous dis-je, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous de même. » Ou bien, c'est Jésus qui continue, « Ces 18 hommes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué. » Pensez-vous qu'ils étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? Non, vous dis-je, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous pareillement. La réponse de Jésus est surprenante et à première vue, elle ne nous satisfait pas bien, parce que Jésus semble pas vraiment répondre à la question, mais en fait la question n'est pas très précise. Hein. On vient simplement lui raconter quelque chose. Alors les Galiléens dont il est question là, c'était certainement des zélotes, des gens qui étaient un groupe politico-religieux qui mêlait la contestation du clergé au refus de l'occupation romaine. Et ils étaient considérés souvent par les gens de la rue comme des patriotes. Mais ils étaient pourchassés par les Romains parce qu'ils voyaient en eux des fauteurs de troubles. Et on sait que Pilate s'est rendu coupable d'avoir agressé ce groupe. Mais bon, c'était aussi ses prérogatives de gouverneur romain de faire régner la paix. Mais il s'est rendu coupable de l'avoir fait avec beaucoup de sauvagerie. Et on a des relations sages dans les historiens de l'époque. Alors, Jésus aurait pu répondre, quand on lui a parlé de ces Galiléens, ils auraient pu répondre des choses comme ça, par exemple, ils l'ont bien cherché. Ou répondre, ils sont morts en glorieux combattant. Ou alors, ils auraient pu leur dire, ils auraient mieux fait de ne pas prendre les armes contre les Romains, mais de chercher d'abord le royaume de Dieu. Ça, c'est des choses qu'on aurait pu répondre, nous. Jésus, pour répondre, pousse la question un peu plus loin. Parce que dans la mort de ces Galiléens, on peut au moins désigner un responsable, Pilate. Et Jésus pousse la question encore plus loin. Il dit, mais et quand il n'y a pas de responsable? Quand c'est une tour qui s'effondre? Qu'est-ce que vous en pensez? Et la réponse de Jésus nous apprend que ceux qui sont morts n'étaient pas plus coupables que la moyenne des gens. Et nous pouvons penser que le peuple haïtien n'est pas plus coupable et pas plus dédié à Satan que le peuple de France. Jésus nous apprend aussi, ou nous rappelle, que de toute façon, tout le monde mourra un jour. Que ce n'est pas ce qui doit nous étonner, mais ce qui doit nous amener à être prêts pour ce jour-là. Et que le drame, ce n'est pas de mourir, mais de mourir de la même manière, c'est-à-dire sans être passé par la repentance, le changement de vie, sans avoir reconnu que seul Dieu peut nous pardonner et nous donner la vie. Mais une fois qu'il a dit cela, il ne donne aucune explication sur l'événement lui-même. Alors on va chercher ailleurs dans la Bible, puisque Jésus ne nous a pas donné l'explication, peut-être d'autres textes nous donneront des explications. Et je vous donne rendez-vous en 2 Pierre, la deuxième épître de Pierre au chapitre 3. Nous allons lire des versets 4 au verset 9. Dans les derniers jours, viendront des moqueurs qui diront « Il a promis de venir, n'est-ce pas ? » Eh bien, où est-il ? Nos pères sont déjà morts, mais tout reste dans le même état depuis la création du monde. Ils oublient volontairement ceci. Il y a longtemps, Dieu a créé le ciel et la terre par sa parole. La terre a été séparée de l'eau et formée par l'eau, et c'est également par l'eau, celle du déluge, que le monde ancien a été détruit. Quant au ciel et à la terre actuelle, la même parole de Dieu les tient en réserve pour le feu qui les détruira. Ils sont gardés pour le jour du jugement et la ruine des pécheurs. Mais il y a une chose que vous ne devez pas oublier, chers amis, c'est que pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas à réaliser sa promesse, comme certains le pensent, mais il use de patience envers vous, car il ne veuille pas que qui que ce soit aille à sa perte. Au contraire, il veut que tous aient l'occasion de se détourner du mal. De se détourner du mal, dans la traduction que j'ai utilisée là, c'est le même mot que Jésus avait utilisé quand il dit « Si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous de la même manière. » Ce que nous apprend ce texte, c'est que Dieu a utilisé dans le passé, au moment du déluge, et qu'il l'utilisera aussi dans l'avenir, des catastrophes naturelles pour exterminer des hommes pécheurs. Et qu'en attendant, il patiente, en attendant que le plus grand nombre de personnes se détournent du mal, car il souhaite sauver le plus grand nombre. Et je vous propose cette explication. Ce qui doit nous frapper, ce ne sont pas les quatre que des catastrophes arrivent et qu'elles tuent des innocents, c'est plutôt que le plus grand nombre des hommes échappent à des catastrophes alors qu'ils méritent la colère de Dieu. mais qu'il bénéficie de sa patience, afin d'avoir le temps de se tourner vers lui. N'accusons pas Dieu de tuer des innocents, remercions-le de patienter et de laisser vivre des coupables. En effet, pourquoi Dieu n'intervient pas tout de suite, une fois pour toutes? Parce qu'il patiente. Et j'aimerais lire le texte que nous a lu Cathy tout à l'heure. Je vous donne donc rendez-vous en Romains 8. Après avoir interrogé Pierre, on va demander son avis à Paul. Romains chapitre 8, verset 18 et les suivants. J'estime qu'il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances de la vie présente et la gloire qui va se révéler en nous. Et je pense que c'est un peu ce que Fred nous a rappelé, ce qu'expérimentent actuellement les frères et sœurs qui vivent en Haïti. Je poursuis ma lecture. C'est en effet cette révélation des fils de Dieu que la création attend avec un ardent désir. Car la création a été soumise au pouvoir de la fragilité. Ça, c'est un terme un peu difficile et qui a été traduit différemment. Certaines traductions disent « soumise à la vanité ». D'autres disent « soumise au pouvoir du néant ». « Soumise à des forces qui ne mènent à rien ». « Soumise à la futilité ». Voilà, c'est différentes façons de traduire ce terme. Car la création a été soumise au pouvoir de la fragilité. Cela ne s'est pas produit de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Il lui a été donné une espérance toutefois, c'est que la création elle-même sera délivrée de la puissance de corruption qui l'a servie pour accéder à la liberté que les enfants de Dieu connaîtront dans la gloire. Nous le savons en effet, jusqu'à présent, la création tout entière est unie dans un profond gémissement et dans les douleurs d'un enfantement. Et elle n'est pas seule à gémir, car nous aussi, qui avons reçu l'Esprit comme avant-goût de la gloire, nous gémissons au fond du cœur en attendant d'être pleinement établis dans notre condition de fils adoptif de Dieu quand notre corps sera délivré. Un texte riche et difficile que je vous invite à scruter un petit peu, qui nous parle d'une création qui souffre. La création n'est pas parfaite à notre époque. Je le sais, nous dit la Bible. Je le sais, nous dit Paul, parce qu'elle est soumise à la vanité, ou à la fragilité, ou à la corruption. C'est bien ce que nous remarquons, ce qu'on croyait solide, immuable, les montagnes, les continents, le niveau de la mer, tout ça se révèle fragile et capricieux. Sans parler de nous-mêmes, de notre santé, de nos forces qui déclinent peu à peu, c'est bien le pouvoir de la fragilité qui est à l'œuvre. Et oui, Paul le reconnaît, la création n'est plus parfaite et elle en souffre. Et nous pouvons discerner dans le tremblement de terre de Haïti un signe de cette souffrance de la création. Mais pourquoi cette création souffre-t-elle? Parce qu'elle a été soumise, dit Paul. Elle a été soumise au pouvoir de la fragilité, non de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Alors, celui qui lui a soumis a fait couler beaucoup d'encre. Et je pense que l'explication est simple. C'est la révolte de l'homme. Si Si vous relisez Genèse 2, Genèse 3, vous savez que Dieu avait confié la gestion de la création à l'homme qui devait veiller sur elle et la gérer, mais en restant dans la dépendance de Dieu. Et nous connaissons la suite, l'homme a désobéi en mangeant le fruit défendu, c'est-à-dire en voulant choisir lui-même ce qui est bien et ce qui est mal, et non plus en dépendant de Dieu pour cela. Et la création a vu son gestionnaire sombrer dans la désobéissance et le péché. Elle a été entraînée dans la désobéissance de l'homme pécheur. Et j'ai trouvé un texte qui m'a beaucoup frappé, qui est, on va demander à d'autres, on va demander à Isaïe cette fois ce qu'il en pense. Mais finalement, à travers tous ces gens, on demande à Dieu ce qu'il en pense. Ésaïe, chapitre 24. Et c'est un texte surprenant. J'avoue que je l'avais complètement oublié. C'est en réfléchissant sur cette prédication que je suis retombé sur ce texte. Je vous le lis. « Voici que l'Éternel dévaste la terre et la dépeuple. Il en bouleverse la face, en disperse les habitants. La terre est complètement dévastée, totalement pillée, car l'Éternel a prononcé cette parole. La terre est dans le deuil, épuisée, le monde épuisé dépérit. Ils dépérissent, les gens haut placés de la terre. » Car la terre a été profanée par ses habitants. Car ils enfreignaient les lois, ils altéraient les prescriptions, ils rompaient l'alliance éternelle. C'est pourquoi la malédiction dévore la terre et ses habitants emportent la culpabilité. Un texte étonnant quand même, qui nous dit « L'Éternel dévaste la terre, c'est lui, il les revendique ». Mais c'est parce que ses habitants ont altéré les prescriptions, rompu l'alliance, enfreint les lois qu'il avait données. Et si c'est bien l'Éternel qui dévaste la terre, ce sont ses habitants qui emportent la culpabilité. La création souffre. C'est vrai. Elle souffre de la désobéissance de l'homme, de la désobéissance d'Adam, mais de la désobéissance de tous les hommes et de toutes les femmes, de toutes les générations qui se sont succédées depuis. Et d'une façon un peu mystérieuse mais réelle, toute souffrance dans le monde est due à l'insoumission des hommes devant Dieu. Le tremblement de terre en Haïti, c'est un peu ma faute. C'est un peu votre faute. C'est un peu notre faute en tant qu'humain. Alors, faut-il se lamenter ? Non, dit l'Épître aux Romains, parce qu'il y a une espérance pour cette création qui souffre. Et cette création qui souffre, elle attend. Et le texte compare, le texte de Romains 8, compare cette souffrance à celui d'une femme qui va accoucher. Une femme qui va accoucher, il va se passer quelque chose. Elle a des souffrances, mais un jour, elle va produire quelque chose. Oui, il y aura un jour où cette création sera de nouveau bonne, toute bonne, parfaite aux yeux de Dieu. Et cela arrivera lorsque les enfants de Dieu que nous sommes, mais ça ne se voit pas encore très bien, ça se voit peut-être même pas du tout, lorsqu'ils seront pleinement établis dans leur condition de fils de Dieu. Peut-être que quand je serai ressuscité, j'aurai de nouveau des cheveux. On ne sait pas, on ne sait pas. Mais il y aura des choses beaucoup plus importantes que cela qui se produiront. Nous serons ressuscités qu'un corps glorieux, éternel, parfait. Et il y a dans ce texte de Romains 8 un parallélisme entre le destin de toute la création et le destin des hommes qui sont restaurés dans un corps parfait comme la création est de nouveau restaurée. Et cela arrivera quand le Seigneur reviendra, bien sûr. Alors, je vous propose de tirer de tout cela. On a essayé de donner des informations, si on peut dire, de glaner des informations dans différents textes. Je vous propose de tirer de tout cela quelques attitudes pratiques. Quelle devrait être notre attitude de chrétien vis-à-vis d'une telle catastrophe ? D'abord, proclamer que malgré toutes les apparences, Dieu est bien un Dieu d'amour. Ce n'est pas à l'homme de le juger. Et au lieu de déplorer une certaine cruauté de Dieu, lorsqu'une catastrophe s'abat, nous devons plutôt louer sa patience qui supporte encore et encore une humanité rebelle et qui retarde le jugement final pour que le plus grand nombre soit sauvé. Dieu est bien un Dieu d'amour. Dieu est bien un Dieu tout-puissant. Et les catastrophes nous rappellent que l'homme qui a prétendu gérer la création en dehors de Dieu, c'est la signification de Genèse, que cet homme est totalement impuissant. Nous sommes dans une civilisation qui croit, qui prétend maîtriser beaucoup de choses et qui s'aperçoit qu'elle ne maîtrise rien et que chaque fois qu'elle fait quelque chose et qu'elle résout un problème dans un sens, elle en crée un autre. Je crois que les constatations écologiques des 20 ou dernières années illustrent de façon parfaite ce genre de choses. Et les catastrophes nous disent, ne prenez pas la patience de Dieu pour de la faiblesse. Troisième point, soyons modestes et restons modestes dans nos Restons modestes dans nos explications. Nous savons pourquoi il arrive des catastrophes. Parce que la nature, on l'a vu, est soumise et engluée dans le péché de l'homme. Mais nous ne savons pas pourquoi telle catastrophe arrive à tel endroit. Et nous sommes obligés de nous confier dans la sagesse de Dieu. Dieu, comme Jésus, dans le texte que nous avons lu, ne nous doit pas d'explication. Quatrième point, ne faisons pas de complexe de supériorité. Ce qui est arrivé là-bas peut survenir ici. Les Français sont tout aussi pécheurs que les Haïtiens. Ceux qui ont péri là-bas ne sont pas de plus grands pécheurs que nous. À l'inverse, gardons-nous d'imaginer que ce sont des innocents qui ont péri. Devant Dieu, aucun homme n'est innocent. Tous sont pécheurs. Cinquième point, sachons porter le deuil de toute cette souffrance. Pleurer avec ceux qui pleurent, compatir aux souffrances de notre monde. Et sachons nous engager aussi pour y porter remède quand nous le pouvons. Quand c'est loin, notre argent peut aider les autres, mais aussi nos prières. N'oublions pas non plus les détresses qui sont à notre porte, qui sont moins loin, moins médiatisées, mais qui sont là. Sixième point, rappelons-nous qu'un jour Dieu jugera le monde entier par une catastrophe planétaire. Et qu'une fois le péché disparu, la création sera restaurée, parfaite, et les hommes qui se seront confiés en Dieu vivront dans une nature parfaite. Et le septième point, je n'ai pas fait exprès, mais il y en a sept, qui est le moins politiquement correct, mais peut-être le plus important. Ayons le souci d'avertir nos concitoyens, avec tact et douceur, mais en leur rappelant cette parole de Jésus, Si vous ne vous repentez pas, vous périrez, vous aussi, de la même manière.
Je crois que Fred avait quelque chose à partager suite à ce message.
Merci. Est-ce que vous vous rappelez du dernier conseil, de la dernière attitude pratique que nous a recommandé Jean-Pierre dans nos vies quotidiennes? Avertissez nos concitoyens. Alors, vendredi dernier, j'étais avec des élèves sur un projet qui n'a rien à voir avec les mathématiques. J'avais avec moi mon clavier, on faisait de la musique. Et à un moment, Nina me demande « Mais monsieur, la musique, vous en faites souvent ou c'est juste pour ce projet ?» Et j'ai dit « Oui, j'en fais souvent chez moi. » Puis elle voulait en savoir un peu plus. Vous en vivez, vous chantez, vous jouez ?» Non, j'en vis pas, j'en joue pour mon plaisir. Hatch. Et après, quand je suis rentré et que j'ai parlé à ma fiancée Laure de cette histoire, en lui disant « Je crois que j'ai raté une occasion de dire, j'en joue surtout pour l'Église. » Et puis ensuite, alors elle m'aurait certainement demandé « Ah bon, vous allez à la messe ?» Alors j'aurais dû expliquer, etc. Mais je ne suis pas allé, je crois, jusqu'au bout d'une occasion que Dieu me donnait de parler de mon engagement. Et même si ça ne glorifie pas d'un coup Dieu, ensuite il peut y avoir d'autres questions et ça peut aller loin et c'est intéressant. Alors, je ne veux pas rester dans la culpabilité, dans le regret. Je pense que Dieu me donnera d'autres occasions de parler de lui. Et je crois aussi que sans parler directement de lui, notre attitude, nos paroles, notre attention envers les autres parlent beaucoup. Mais il est important aussi de rendre gloire à Dieu et de dire aux gens, si je suis comme cela, si je fais ceci, c'est parce que Dieu me le demande. Ayons le souci d'avertir nos concitoyens. Parce que le Seigneur est vivant, il ne veut pas que l'homme meure. Revenez à moi de vos mauvaises voies et je guérirai vos cœurs blessés. Si vous écoutez ma parole pour vous détourner des idoles, je pardonnerai et vous délivrerai de tous les maux dont vous souffrez. Et ensuite, dans cette chanson que je vous propose de prendre bientôt, ça y est, il s'adresse à nous qui connaissons Dieu, qui voulons lui obéir. Parle à ceux qui sont dans la nuit. Convainc-les de changer de vie, préviens-les du danger qui les frappera quand l'ennemi les surprendra. Dans ce chant, on reprend un passage d'Ézéchiel 33 qui nous demande d'être des sentinelles, d'avertir, vraiment d'avertir. C'est de notre responsabilité. Si nous n'avertissons pas et que des gens meurent sans avoir connu Dieu alors que nous aurions pu leur parler, c'est à nous que des comptes seront demandés. Si nous les prévenons, si nous faisons notre partie du travail, on n'a pas une obligation de résultat, on a une obligation de moyens. Si nous faisons notre part du travail, après, ils prennent leurs décisions, éclairées par le Saint-Esprit ou pas, appelées par Dieu ou pas, mais ils prennent leurs décisions et s'ils ne veulent pas de Dieu, ma foi, Seigneur, je suis très triste, mais j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai fait ma part. Et voilà, je vous propose